En campagne présidentielle, tous les coups semblent permis, ou presque. En tout cas, tous les moyens sont bons pour déstabiliser l'adversaire grâce à des révélations sur son passé ou en faisant courir les plus folles rumeurs du vrai et du faux. Donc, cette manipulation de l'information a longtemps été incarnée par une institution de l'État, les renseignements généraux, les RG comme on les appelle, qui ont été utilisés durant des décennies par les hommes politiques au pouvoir pour récolter le plus d'informations possibles sur leurs adversaires et pour ensuite les faire fuiter dans la presse opportunément. Les fake news et le bad buzz ne sont donc pas une invention de notre époque. Ils et elles étaient bien présents avant l'arrivée d'Internet. Une série documentaire revient sur cette épopée des RG et ses méthodes discutables ce dimanche soir à 21h sur France 5. Bonjour Olivier Tosserre.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de cette série doc Dans l'œil des RG, filmée par Damien Vercamer. D'abord, pourquoi ce titre Dans l'œil des RG?
Parce que c'est l'organe principal des renseignements généraux, l'œil, il regarde, il surveille.
Voilà, on a l'impression que vous êtes dans l'œil du cyclone, et vous êtes au milieu de la machine infernale de la lessiveuse.
Un petit peu aussi, oui, tout à fait. Mais.
Parce qu'il y a vraiment beaucoup de témoignages. Première question, à quand remonte la création des renseignements généraux, et à l'époque c'était dans quel but?
Alors, les renseignements généraux existent réellement sous ce nom depuis 1937, donc ils ont été créés sous le Front Populaire. Le but du jeu des renseignements généraux, c'est un service de renseignement de proximité, c'est-à-dire on veut savoir ce que pensent les Français, tout simplement.
Les Français, et pas un où c'était pas ciblé comme ce le fut, comme ce l'est désormais, enfin même si l'organisation a été démantelée et arrêtée. Vous avez plusieurs anciens agents des renseignements généraux qui témoignent dans votre doc. Déjà, la chose qui frappe vraiment, on a toujours l'impression que c'était des barbouzes, on les représente dans le canard enchaîné avec des imperméables, un chapeau, une fausse moustache. Comment avez-vous réussi à les faire parler à visage découvert?
En prenant le temps de les convaincre, justement, de raconter leur histoire, qui n'avait été jamais racontée à la télévision. C'est des gens qui ont un métier très spécial, que personne ne connaît réellement, ce qui a toujours généré beaucoup de rumeurs et beaucoup de fantasmes autour des renseignements généraux. Et donc je leur ai dit, les uns après les autres, si vous assumez ce que vous avez fait, il faut raconter aux gens ce que vous faisiez réellement. Mmh. Et éviter de laisser des fantasmes, des zones d'ombre autour de votre travail. Alors, il y en a des zones d'ombre dans le travail des renseignements généraux. Il y a eu pas mal de bavures, mmh, mais il y a aussi un travail qui s'explique.
Vous avez essuyé beaucoup de refus, j'imagine, plus de refus que de go.
Oui, tout à fait. En l'occurrence, je me suis aperçu que beaucoup n'assument pas réellement ce qu'ils ont fait et n'ont pas envie de le partager. Mon idée de départ, c'était hors de question de faire un documentaire sur les renseignements généraux avec des gens à visage masqué. Parce que ça aurait accéléré encore plus les fantasmes, justement. Donc je voulais absolument avoir des agents du renseignement généraux face caméra, visage découvert.
Alors, c'est assez rare pour être signalé, c'est en plusieurs épisodes, c'est pas chronologique, on commence pas par la création. L'épisode 1 s'intitule « La République des coups tordus », ça porte bien son nom, et cet épisode revient en grande partie sur la candidature à la présidentielle de Coluche, on était dans les années 80-81. Comment ce qui n'était qu'une plaisanterie est devenu une affaire qui a inquiété au plus haut sommet de l'État, au point de mobiliser les renseignements généraux? Comment ça s'est passé?
Ben, tout simplement, au sommet de l'État, on a commencé à être un peu énervé par cette candidature de Coluche qui ridiculisait tout le monde politique et qui concurrençait également le président Giscard d'Estaing qui était en quête de réélection. Et donc on a décidé de le surveiller, pas tellement pour le surveiller, mmh, et ensuite pour le dissuader.
De se présenter.
Donc, d'abord, on essaye de voir, on met par exemple une fourgonnette devant chez lui, avec des gens à l'intérieur, vitre teintée, et puis on essaye de savoir qui vient le voir, quels sont ses relationnels. Et puis ensuite, des ordres sont donnés par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur de Giscard d'Estaing, qui est de le dissuader et donc de le menacer.
La première phase, c'est d'obtenir le plus d'éléments possible, et vous avez réussi à faire parler une personne qui était membre des RG de la préfecture de police de Paris dans les années 80, c'est le commissaire Brigitte Henry. Elle vous raconte ce qui s'est passé à visage découvert. Elle était au cœur, elle était dans l'œil justement des RG, on l'écoute.
Les RG doivent à tout prix trouver de quoi ternir l'image de Coluche.
Au
fait un petit peu son passé. Il a fait l'objet d'une arrestation pour vol quand il était très jeune. Et son passé militaire n'était pas très glorieux, hein, puisque bon, il a été à plusieurs reprises en prison pour indiscipline. L'image qui a été donnée par ces notes Hergé était une image plutôt défavorable à Coluche.
Ces notes, savamment préparées, vont alimenter plusieurs enquêtes à charge dans les journaux. Les premiers à s'en servir sont les journalistes de l'Express. L'article est très largement inspiré du dossier des Hergé. Les policiers écrivent par exemple « Le 2 janvier 1979, il avait franchi un feu rouge et insulté les gardiens de la paix. » Sous la plume du journaliste de l'Express, cela devient « Il avait, le 2 janvier, grillé un feu rouge et traité d'enculé les deux gardiens qui le verbalisaient. »
Là, on est totalement dans la désinformation.
On est inventé
des mots qui ne sont pas dans le dossier.
Exact.
Mais ça, ne me dites pas que c'est de l'info.
un petit peu. En tout cas, c'est pratiquement recopié.
Oui.
L'article est recopié intégralement de la note des.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui n'a pas été recopié a été inventé. Donc c'est encore pire.
Et oui,
on ajoute du mal au mal quand même.
Bien sûr, parce que le but du jeu, c'est salir Coluche.
Voilà. Et le but du jeu, c'est on voit les relais de la presse, le journal Express, grand journal. Parfois, c'est pas à mettre à son crédit. Cet épisode.
À cette époque-là. Il y avait quand même une tradition dans les rédactions, quand on faisait des enquêtes journalistiques, souvent on allait voir les Hergé.
Il y a plein d'autres exemples que vous donnez de souvenirs de papier qui sont les mêmes. Une note d'Hergé qui devient un article, vous les avez en tête ou pas du tout?
Non, pas
il y en
vraiment,
a plein. Mais, voilà, il y en a beaucoup. Moi non plus, je ne l'ai plus en tête. Je me suis dit, je vais lui poser la question, il va s'en souvenir. Et Brigitte Henry, cette commissaire qui était à la préfecture de police de Paris, vous confie également qu'il y avait des dizaines de fonctionnaires mobilisés rien que sur le dossier Coluche. Ensuite, il y a eu aussi des sondages. Et puis, on va passer dans une histoire beaucoup plus proche, la guerre, car c'était une guerre interne au sein de la droite entre le président Chirac et son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. C'est dans votre doc, c'est dans Culture Média. À tout de suite. Dans l'œil des Hergé, les Hergé, ce sont les renseignements généraux, épisode 1 et 2 de ce documentaire dimanche soir, et puis il y aura un troisième épisode le dimanche 7 novembre dans l'après-midi. Il y a un personnage, Olivier Tesser, vous en êtes le réalisateur, qui va marquer et qui a marqué l'histoire des Hergé. Un de leurs anciens patrons, Yves Bertrand, vous pouvez le présenter à nos auditeurs.
Yves Bertrand, c'est un hiérarque des renseignements généraux qui a fait toute sa carrière aux renseignements généraux et qui était connu, en tout cas sa force, c'était de savoir ce qui intéressait les politiques. Donc il orientait la production des notes des renseignements généraux pour faire plaisir au pouvoir en place, en fait.
On est en 97, Lionel Jospin devient Premier ministre, c'est la première cohabitation avec Jacques Chirac. Il prononce à l'Assemblée nationale un discours contre les Hergé. Il dit « Dans la République, il n'y a pas de place pour une police politique ». Phrase qui ne va pas du tout plaire à Yves Bertrand. Que va faire Yves Bertrand pour déstabiliser l'ancien Premier ministre?
Alors, c'est Yves Bertrand qui va commencer à chercher dans le passé de Lionel Jospin la période où il a été un militant trotskiste, une période que Lionel Jospin ne voulait pas tellement se rappeler.
Qui cachait carrément, on va le dire.
Et qui cachait absolument. Et c'est les renseignements généraux qui déterrent les choses et en parlent au maximum de journalistes qui peuvent croiser pour en faire une affaire, en fait. Et il y a une affaire qui sort sur Jospin, l'ancien trotskiste. Et une affaire qui fonctionne au sens des renseignements généraux, c'est-à-dire qui va blesser Lionel Jospin, parce que Lionel Jospin, plutôt que avouer tout de suite et mettre les choses sur la table, va financer pendant un petit moment, ce qui va permettre à la campagne de presse lancée par les renseignements généraux de prendre de l'ampleur.
Ouais, et puis ça c'était authentique, et les Hergé sont également intéressés au passé du père Lionel Jospin. Il y avait une histoire de voilier, ça c'était vrai, c'était faux?
Tout était faux, voilà.
Ben non, pas tout, parce que le passé chez les Trotsky c'était vrai.
Oui, mais après beaucoup de choses, parce que Lionel Jospin était devenu l'ennemi des renseignements généraux, en tout cas du patron des renseignements généraux, donc il a continué à essayer de chercher des affaires, et il y a énormément de fake news qui ont été écrites dans les notes Hergé sur Lionel Jospin.
Il y avait un véritable cabinet noir contre Lionel Jospin à l'Élysée?
Oui, parce que les renseignements généraux étaient entièrement instrumentalisés par l'Élysée de Jacques Chirac, en fait, et faisaient vraiment le travail. C'était presque devenu une milice chiraquienne, et donc il fallait abattre Lionel Jospin.
Voilà, je souris parce que les membres du prétendu cabinet noir ont toujours déclaré qu'il n'y a jamais eu de cabinet noir.
Ben oui, non, notamment dans le film, on diffuse cette archive de M. de Villepin, qui dit qu'il n'y a jamais de cabinet noir. tout le monde sait que c'était lui qui gérait les choses avec les RG. Mais...
On verra lundi matin si vous avez un procès. Autre cible d'Yves Bertrand dans les années 2000, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, le président en place est Jacques Chirac. Mais cette fois-ci, ce qu'il y a de complètement nouveau, c'est qu'ils sont du même parti. C'est comme s'il y avait un ennemi de l'intérieur. Là, cette fois-ci, quels vont être les angles d'attaque du patron des RG?
Alors là, le patron des RG va essayer de fouiller dans les affaires financières de Nicolas Sarkozy. Et va écrire des notes, toutes fausses d'ailleurs, sur des prétendues malversations de Nicolas Sarkozy. Et à un moment donné, Nicolas Sarkozy va s'en apercevoir. Mmh. Et c'est la fin c'est le début de la fin.
Il s'était également intéressé, ce que montre votre documentaire, à Cécilia Sarkozy, l'épouse.
Il s'intéresse également à Cécilia Sarkozy et on sait que c'est les renseignements généraux qui diffusaient pas mal de rumeurs sur quel était le passé éventuellement trouble de Cécilia Sarkozy qui passait pour une ancienne call girl, ce qui est totalement faux.
On apprend des choses absolument insensées dans votre doc, notamment qu'il y avait aux renseignements généraux quelqu'un, le commandant Alain Prissette, qui vous révèle quelqu'un chargé de recueillir toutes les infos sur la presse People concernant Nicolas Sarkozy. C'est une info sérieuse, ça vous fait sourire, mais
c'est tout à fait sérieux, c'était son boulot.
Alors, la campagne de 2007 approche, évidemment, j'accélère le récit, puisque votre documentaire est très 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 charpenté, très documenté. Cette fois-ci, Nicolas Sarkozy est en lice pour son accession à l'Élysée. La candidate, son adversaire, c'est Ségolène Royal, et tous les moyens sont bons pour le clan Sarkozy, pour cette fois faire du tort à Ségolène Royal. Et grâce au RG, Nicolas Sarkozy va savoir très vite que le couple Royal-Hollande-Badlel, information qui concerne la vie privée de sa principale concurrente, qui va être recueillie par le commandant Prissette, et là, qui cite ses sources, c'est un document.
C'était le chauffeur d'Alain Genestar, le directeur de match, qui me raconte ça, je crois qu'on est en 2006, il me dit, oh, il faut que je te dise, François Hollande a une maîtresse, en l'occurrence Valérie Trier-Villers à l'époque. Elle était chef du service politique de Paris Match. Ah bon, alors là... Il me raconte que, alors qu'il conduisait Genestar en voiture, Ségolène Royal appelle Alain Genestar en lui demandant, paraît-il, que Valérie Trier-Villers soit écartée du service politique de match, etc.
Et là, donc, on a la source des renseignements généraux, c'était le chauffeur.
Le chauffeur d'Alain Genestar, le patron de Paris Match, oui.
Lui aussi, il va être content de voir son identité dévoilée dans votre talk dimanche soir et maintenant en direct sur Europe 1. La presse était manipulable par les RG à l'époque?
Complètement, parce que comment ça fonctionne? Ça fonctionne, vous êtes des renseignements généraux, donc vous êtes censé tout savoir sur tout. Lorsque quelqu'un des renseignements généraux parle à un journaliste, le journaliste pense que ce qu'il lui dit est entièrement vrai et documenté, ce qui est souvent totalement faux.
Et là où c'est complètement fou, c'est qu'après que Nicolas Sarkozy a réussi à faire muter le patron d'ERG qui enquêtait sur lui, lui-même s'est beaucoup servi d'ERG, il a même demandé des enquêtes bien étranges aux renseignements généraux, notamment sur Rachida Dati.
Oui, absolument, à un moment donné, Rachida Dati est enceinte.
Elle est enceinte. Alors qu'elle est garde des Sceaux.
Elle est garde des Sceaux, donc elle est dans son gouvernement, c'est lui qui l'a nommée. Mais elle est enceinte et elle ne veut pas dévoiler le nom du père. Elle ne l'a toujours pas dévoilé d'ailleurs, c'est son droit. Mais ça énerve Nicolas Sarkozy, il voudrait savoir qui c'est, tout simplement, juste pour savoir en fait, parce qu'un président, c'est un président de la République, c'est ça, il veut tout savoir.
Et d'après ce que vous savez, on ne va pas dire les noms ici, est-ce qu'ils ont su qui était le père?
Ils l'ont su.
Quand on regarde votre doc, évidemment, l'image des RG est sacrément entachée. Les renseignements généraux ont été supprimés en 2008. Pour quelles raisons officielles?
L'époque avait changé, en fait. On était un peu sur l'hyperterrorisme qui commençait à arriver en France. Et un service consacrait des ressources à un service comme les renseignements généraux, qui finalement ne faisait plus grand-chose que une machine à rumeurs, en fait, ça commençait à se voir un peu trop, et donc Nicolas Sarkozy a considéré qu'il fallait mieux faire un service de renseignement plus professionnel.
Voilà, et est-ce que ce genre de pratique existe toujours? On a vu plein de rumeurs concernant plein de candidats à l'élection présidentielle.
Il y a beaucoup de rumeurs, mais aujourd'hui, les renseignements généraux ne serviraient plus à grand-chose s'ils existaient encore, en fait. Aujourd'hui, n'importe qui met ce qu'il pense sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas besoin d'avoir des espions qui essaient de savoir ce qui se passe. Et les rumeurs se diffusent aussi comme ça sur les réseaux sociaux.
Les fake news ont déjà leur vecteur. Merci beaucoup Olivier Tosser. Dans l'heure IDRG, l'épisode 1 et 2, c'est dimanche soir à 21h sur France 5. Et puis l'épisode 3, ça sera le dimanche 7 novembre à 16h25. Également avec Damien Vercamer pour les images, co-réalisateur avec vous. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
S'il y avait l'IRG, ils auraient enregistré cette séquence.